Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode particulier puisque nous nous trouvons à Monaco, aux assises de la sécurité des systèmes d'information et nous recevons nos amis du comptoir Sécu. Alors nous recevons Morgane Autonier.
Bonjour.
Nous recevons également Justin Ganivet.
Bonjour.
Youen Piolet.
Salut.
Également un RSSI, il s'agit de Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Et pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Bon alors, les assises cette année, qu'est-ce que vous en avez retenu?
En dehors de la pluie.
Alors là, tu m'ôtes toute entrée parce que j'ai découvert que mes pompes prenaient l'eau. Et j'ai pas de redondance, donc c'est toujours pas sécurisé.
C'est ça le fail.
Alors c'est pas ça le fail, on y reviendra après.
Bah écoutez, les assises de la sécurité, moi j'ai la chance de ne pas y avoir participé pendant plusieurs années, 2 ans. Donc la dernière fois que j'étais venu, c'était en 2012. Eh bien, je peux vous confirmer que les assises, ça ne change pas. C'est absolument comme la sécurité. Plus ça change, plus c'est la même chose. Les exposants sont les mêmes, les produits sont les mêmes, les RSSI sont les mêmes. Il y a vraiment de la continuité dans la sécurité.
Il y a peut-être plus de volume, plus d'acteurs, plus de RSSI, plus d'offreurs.
Je ne suis pas certain que le palais de Monaco puisse contenir plus de monde qu'auparavant. Il y avait déjà beaucoup de monde il y a 4 ans, il y a 5 ans. Il y en a toujours autant.
Il y a quand même, par rapport à l'année dernière, certains acteurs majeurs de l'IT, voire de la cybersécurité, qui étaient présents l'année dernière, qui sont pas là cette année. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils avaient pas grand-chose à montrer, alors qu'ils sont assez présents? Par ailleurs, quand on les voit dans les appels d'offres, quand on les voit sur le terrain, c'est quand même ouais, une bonne question à se poser. Pourquoi les gens qui d'habitude sont là ne sont pas là? Et puis, on a eu aussi la chance de découvrir de nouveaux acteurs. Donc, ça veut dire aussi, contrairement à ce que Hervé nous dit, que rien ne se perd, rien ne se crée, mais peut-être que tout se transforme.
Oui, il y a quelques acteurs nouveaux, mais globalement, il y a beaucoup de vendeurs de firewall. Beaucoup de vendeurs de logiciels que l'on voit depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans.
On n'a pas tous ton expérience. Donc, bon, nous, ça fait que 2 ans qu'on est là. Pour nous, tout est encore nouveau. Hein.
Bah, et pour vous, alors justement, sur 2 ans, est-ce qu'il y a eu une évolution, un changement?
Bah, juste pour parler déjà du volume, j'ai l'impression qu'il y avait plus de monde quand même que l'année dernière. Maintenant, il y a peut-être un effet un peu biaisé du fait de la météo, vu qu'on était tous du coup réunis dans l'intérieur des bâtiments à la place des jardins, comme c'est prévu logiquement dans les soirées. On était vraiment, vraiment serrés. Maintenant, peut-être qu'avec un volume plus intéressant, enfin, une surface plus grande, je ne m'en serais pas rendu compte à ce point-là. Par contre, les noms toujours les mêmes, je suis pas vraiment d'accord. Il y a eu pas mal de rachats, je trouve, en ce moment aussi, par des grands noms qui ne sont pas forcément des noms de la sécurité, à la base en tout cas, et donc qui maintenant s'affichent avec leur nom de la maison mère. Ça fait du coup un peu de changement, au moins en tout cas au niveau des étiquettes.
Oui, alors la nouveauté, c'est qu'il a plu.
Mais ça change tout.
Ça change rien. Je veux dire, on est à l'intérieur, on est là pour travailler.
Si on regarde la soirée d'hier soir qui devait se passer à l'extérieur, c'est passé à l'intérieur. Les gens sont partis très tôt. Et donc, il y a eu des contre-soirées qui se sont organisées aux alentours.
Les meilleurs sont restés très tard.
Non, j'ai été invité sur un yacht privé, en face d'un hôtel. Enfin, il y a eu beaucoup de contre-soirées.
Ah, alors, qu'est-ce qu'il y avait comme service sur ce yacht?
On va pas en parler aujourd'hui.
C'est vrai que du coup, ça a peut-être un peu fragmenté aussi les soirées. Pour les gens qui viennent pour le networking, c'était un petit peu dommage de voir qu'on ratait quelques têtes. Moi, je sais que par rapport à la première soirée, pas mal de connaissances qu'on a juste pas croisé du coup jeudi soir.
Alors ça, c'est effectivement un constat que j'ai fait par rapport à l'année dernière où j'avais trouvé que les gens restaient peut-être, c'est une impression, hein, peut-être un petit peu plus l'année dernière et où on avait réussi à pas mal se mélanger. Hein. L'année dernière, si vous vous souvenez, comptoir sécu, on avait pas mal tourné. Cette année... les gens partaient tôt, quoi. 11h, entre 11h et minuit, il y avait beaucoup moins de monde.
Écoutez, franchement, hier soir, je constate que les gens sont restés jusqu'au bout comme moi. Certes, ça a fini un peu tôt. Il a fallu payer le bar après. Mais j'ai rencontré plein de gens jusqu'au bout. Donc, le networking a très bien fonctionné.
Alors, je suis d'accord avec toi, Hervé. Moi, j'ai privilégié cette année les rencontres pair à pair. les rencontres directement avec les fournisseurs, parce que je viens aussi faire mon marché et voir un petit peu ce que le marché raconte. Et ce networking, je l'ai fait à deux niveaux. Je l'ai fait avec les vieux de la vieille, donc par exemple un Hervé Schauer que j'ai le plaisir de retrouver aux Assises de la Sécurité cette année.
Merci.
Et d'autres copains RSSI ou consultants que je peux croiser à Paris ou ailleurs. Quelques consultants suisses indépendants qui viennent nous voir de temps à autre. Et puis, j'ai aussi fait pas mal de pair à pair avec les vendeurs. Et c'est pas toujours... j'ai trouvé que les gens parlaient assez librement derrière les panneaux. Et c'est peut-être même encore plus intéressant que quand on fait des rendez-vous chez nous où tu sens vraiment qu'il y a une pression commerciale pour venir vendre. Là, ils ont un condensé de 3 jours avec la plupart des RSSI de France. Et tu sens que peut-être c'est un ressenti encore une fois, l'ouverture se fait plus facilement parce que c'est pas tout à fait la même pression.
Tu veux dire qu'avec 3 grammes dans le sang, les gens y parlent plus ?
Non, je pense que comme ils ont beaucoup de rendez-vous à la suite, ils délient leur langue plus facilement pour dire la vérité sur ce que leur produit permet de faire et permet moins bien de faire.
Il y a aussi un changement sur les présentations que j'ai remarqué, c'est qu'avant c'était quand même plus orienté présentation du produit et que là on est plus sur du retour d'expérience,
c'était déjà comme ça. Ça fait très 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 longtemps que plus personne ne va à un atelier qui n'est pas un retour d'expérience. Donc les ateliers étaient tous du retour d'expérience il y a déjà de nombreuses années.
Alors j'ai un contre-exemple.
Tous ceux que je sélectionnais en tout cas.
Voilà, parce que j'ai un contre-exemple, je me suis fait avoir par le marketing d'une solution que je pensais éventuellement innovante en matière de sécurité, mais enfin comme tout existe depuis 1960, on réinvente pas grand-chose.
1995.
Une date de création d'Hervé Schauer Consultant, non ?
Non, 1989.
effectivement, c'est le constat que j'ai pu faire, encore une fois à mon niveau, où lorsqu'il y avait des retours clients dans les présentations, on pouvait voir un vrai intérêt, tandis que quand c'est la société qui porte seule la présentation, ça peut être un petit peu plus mitigé.
Cette année, il faut quand même le dire, il y a un truc qui a changé, c'est le thème. Ah, on a eu des années passées l'IAM, l'Endpoint Security, le Firewall NG, le CIEM, je sais pas quoi. Aujourd'hui, le thème, c'est le SOC. Il y avait 10 ou 12 présentations sur les SOC et les cyber SOC et les SOC, toi, ça t'intéresse en tant qu'acheteur ou?
Alors, ça m'intéresse à deux niveaux. Déjà parce que effectivement, en tant que responsable de la sécurité d'un SI, j'ai besoin de collecter les événements pour savoir ce qui se passe au quotidien, mais je vois tous vos sourires narquois là, on fait de la radio, donc je me permets de retranscrire quand même la chose, parce que pour nos auditeurs, ça m'intéresse non seulement pour les événements de sécurité, parce que lorsque feu le technicien qui était en moi faisait déjà de la collecte avec du syslog ou du syslog NG, je réussissais déjà avec SNMP ou les choses du genre à récupérer tout un tas d'événements. Je pense que la vraie bataille autour des SOC, c'est la bataille applicative. C'est lorsque vous faites des requêtes SQL, savoir quand il y a une requête SQL qui va prendre plus de temps à l'exécution pour détecter une injection SQL. Oui, là, il y a plus de sourire pour nos auditeurs, ils m'écoutent tous très attentivement.
Est-ce que c'est pas plutôt le cloud SOC l'enjeu, c'est-à-dire le SOC qui supervise tes incidents et ce qui se passe dans toutes tes applications dans le cloud?
Oui, mais pour superviser les incidents, il faut déjà savoir ce qu'on veut superviser. Je te ramène à l'analyse de risque que tu connais très bien, pour savoir quels sont tes biens essentiels, parce que si tu supervises tout et n'importe quoi, tu disperses tes ressources et finalement, comme beaucoup de choses en informatique, ça ne sert à rien ce que tu fais. On va parler des audits, pour parler d'un cas très précis. Le nombre d'audits que les sociétés ont fait, et vous l'avez tous vécu, où les audits ont fini pour caler des tables, on est là-dedans. Donc il faut vraiment cibler ce qu'on veut faire pour avoir des résultats tangibles et apporter un atout au business. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle je suis très intéressé par la partie des SOC, et je pense que pour le coup, on en est, comme le disait Capso ce matin, au début de cet aspect de la sécurité, mais peut-être on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et puis effectivement, mon entreprise est offreuse de SOC. Mon entreprise est à la pointe en matière de réseau et de technologie, donc forcément, on se doit d'offrir un service qui est utile, et on a été parmi les premiers offreurs français à le faire.
Il fait sa pub, il amène même pas de quoi boire, quoi.
Oui, mais j'ai pas cité la société.
Alors, les keynotes,
Est-ce que vous avez assisté aux keynotes?
Moi, j'ai pas assisté à toutes les keynotes. Alors, il y a des keynotes du soir que j'ai ratées. C'est alors que les keynotes du matin, je les ai faites. Mais globalement, je crois que il y en avait qui étaient pas trop mal. C'est quoi votre avis?
Alors, le mot d'ordre, quand même, c'est d'être politiquement correct dans ces émissions. Donc, merci Nicolas pour ton retour constructif.
De notre côté, on les a quasiment toutes faites. Bon, à part un manque de courage certain pour le matin, moi y compris. Comme d'habitude, souvent on est agréablement surpris par celle du jeudi soir qui casse un peu avec le reste parce que c'est généralement un peu moins une promotion détournée derrière d'une personnalité ou d'une entité, mais plutôt généralement un sujet qui sort un peu, qui sort sans la sécurité, mais qui est un petit peu justement dans les sentiers. Hors des sentiers battus, on a un côté un peu philosophique. Bah, c'était le cas justement hier soir avec Gaspard Koenig. Je sais pas, je voulais l'appeler Gérard, je sais pas pourquoi. Sur le côté justement utopie numérique, même si ça faisait plus dystopie numérique vu le contenu à plusieurs reprises. Il y avait quand même un sacré morceau sur le big data et la cybersurveillance. C'était pas spécialement ce qu'il y avait de plus réjouissant sur le perspective.
Oui, il y avait quand même un côté positif. Il était plus dans le, en disant ça se passera pas comme ça. On va changer les choses. Il était pas. Voilà. Il était pas ce point négatif.
L'année dernière, on avait eu le transhumanisme qui était c'est également je trouve assez intéressant en tout cas, enfin ça faisait son exercice de show, en tout cas c'était assez efficace.
C'était plus un show qu'autre chose au final, surtout par rapport aux images qui étaient montrées. Moi je me souviens la photo en gros d'un pénis devant 1500 RSSI, c'était quand même assez rigolo.
Oui, c'est vrai que l'humour était un petit peu plus fin cette année avec les pics du fameux Gaspard, mais
enfin comment
je pense qu'un professionnel de la sécurité doit faire l'objet d'un minimum de curiosité. Donc, il convient par curiosité de se renseigner sur l'individu qui avait fait cette keynote l'année dernière.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que la personne, à ma connaissance de l'année dernière, qui a pu critiquer les initiatives de Google, a lui-même une société concurrente dans le même secteur. Bon, on peut peut-être se poser la question, mais le sujet de fond, c'est que pour nous, simples informaticiens, RSSI peut-être, pour les meilleurs d'entre nous, je suis le seul de la salle, donc j'en profite, ça permet d'avoir une certaine ouverture sur d'autres sujets que ce qu'on traite au quotidien. Et c'est toujours bien d'aller voir ailleurs et de se sortir la tête. Et je dirais même, pour faire une certaine afférence à la keynote de ce matin, qui était passionnante, n'est-ce pas Justin ?
C'était très intéressant.
Que nous sommes au service de nos métiers et que pour être au service de nos métiers, au-delà de notre entreprise, il faut vraiment s'intéresser à ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils font, etc. Dans mon business, il y a des boutiques, dans mon business, il y a des services. Je vais régulièrement dans ces endroits-là pour comprendre l'impact que j'ai sur eux et savoir ce que le client attend. Quand un client attend 20-30 minutes parce que le système informatique ne répond pas, si c'est parce que j'ai rajouté de l'authentification forte, du chiffrement, le VPN, tout ce que vous voulez,
fail.
Voilà, ben c'est peut-être pas la bonne réponse. Et donc ça me permet de me remettre en question et par là même d'aborder mon métier avec toujours en tête comment je sers mon client final. Donc je pense que ces keynotes qui sortent de notre métier sont plus qu'essentielles pour les informaticiens, pour les gens de nos métiers, pour voir d'autres choses. Je pense que Hervé connaît bien le domaine du business.
Ce que tu veux surtout dire, c'est que s'il n'y a pas ce type de keynote aux assises, personne sortirait pour un peu se cultiver par lui-même.
Je n'irai pas jusque-là, je ne me permettrai pas.
Parce qu'on n'a pas besoin de venir aux assises pour entendre autre chose que de l'informatique et de la sécurité. Hein.
Non, mais
tout le monde peut aller à l'opéra, au concert ou lire des livres de philosophie.
Quand tu passes 3 jours dans un endroit, c'est bien de se dire qu'on n'est pas centré uniquement sur la problématique et de voir autre chose. C'est mon avis.
Est-ce que vous avez vu justement des solutions innovantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des choses un peu particulières?
Parmi les choses que je ne connaissais pas, alors faut dire que je suis pas forcément d'actualité, j'ai croisé Elastica par exemple, parce que j'avais pas vu cette société, et qui essaye de tracer ce que font les gens justement dans les divers outils de cloud.
Moi j'ai vu Codenomicon, hein, qui vient de se faire racheter. Alors Codenomicon, pour les auditeurs qui connaissent peut-être sans le savoir, c'est la société qui a mis à jour Earthblade. Et donc c'est une... Nicolas n'est pas d'accord.
C'est une société qui fait du fuzzing, qui trouve des failles dans le logiciel, mais de là à s'approprier la paternité de Earthblade, c'est un autre problème.
Et donc Codenomicon a été racheté récemment. Alors j'ai pas la société en tête. Et cette même société mère qui a racheté Codenomicon a aussi racheté Coverity. Et Coverity, c'est on va dire un parseur logiciel spécialisé en C++ entre autres. Ça peut être intéressant de faire le suivi parce que je pense qu'il y a des choses étonnantes. Et c'est une entreprise étrangère. Hein. Ils ont des représentants, quelques représentants Europe, mais Harry Takanen, qui était un des fondateurs de Codenomicon, est là. Il est finnois, donc c'est pas forcément ce qu'on voit tous les jours aux assises. Quoi.
La société qui les a rachetés s'appelle Synopsis. Et on n'en a jamais entendu parler avant, mais espérons que ce soit pas un fonds d'investissement qui fasse du LBO.
Moi, j'ai bien aimé Centrio, qui était déjà venu présenter à l'OCIR et qui présente en fait une solution de détection d'intrusion sur la zone industrielle.
Ah bah, c'était déjà au cercle de la sécurité.
Ouais.
Alors sinon, il y a une société de conseil là qui est montée. Ils étaient au bord de la route l'année dernière. Ils sont en plein milieu du salon. Ça s'appelle NetXP. Ils font pas mal de conseils. Les gars sont sympas. Vraiment, je vous conseille. Ils font à la fois de l'hébergement, à la fois du conseil. Ça a l'air d'être une équipe dynamique.
Ah, c'est une équipe très bien formée.
Voilà. Et puis on peut aussi remercier XMCO qui nous a payé à manger à midi. C'était sympa.
T'es en train de dire qu'il faut que un jingle de pub en fait, c'est ça? Il faut que je mette une petite musique de fond.
Je pense que tu pourrais demander à NetXP si effectivement ils ont pas des choses à monter au passage.
On a des goodies, tu vois, on a des jolis cadenas.
Ah, tu travailles là-bas?
On a beaucoup trop de pubs en ce moment. Pour partir sur un point pas du tout de pub, qu'est-ce que vous avez pensé des goodies en général?
Alors, pour ma part, je suis content parce que j'ai un petit défi personnel qui est de battre Nicolas Ruff, maître incontesté de la récup sournoise de goodies. Et je pense que, comme il était invité journaliste cette année, il a été persona non grata sur les stands. Et donc, je pense avoir gagné pour la première fois de ma vie mon pari. Et j'ai récupéré 4 ou 5 enceintes Bluetooth, 2 perches à selfie, des lampes, des trucs comme ça. Alors une grosse déception quand même côté Qualys. J'ai voulu faire la personne tranquille et en fait quand je me suis pointé aujourd'hui, ils avaient plus de mini drone. Alors là c'est une grosse déception. Qualys, si tu m'entends, contacte-moi.
Est-ce que tu as pu récupérer un cerf-volant?
Non, je n'ai pas récupéré un cerf-volant, mais 2 cerfs-volants.
Pour l'avoir mis de balader sur sa cadeau.
Parce que je crois que Nicolas a réussi à choper des tapis de plage.
Ça n'a rien à voir, c'est pour les donner à quelqu'un d'autre. Je ne suis que porteur de goodies, moi.
C'est vrai que pour le coup, en goodies original, c'était quand même assez varié. Enfin, le coup des cerfs-volants, je m'y attendais pas. Malheureusement, je suis arrivé trop tard, moi. J'ai débarqué aujourd'hui, on m'a dit que le stock était vide.
Le coup des parapluies était très très bien joué, parce que pour le coup, j'aurais pas jamais pensé à amener des parapluies aux assises et ils étaient fort utiles. Hein.
Il y a eu des goodies parapluies?
Je crois que c'était que pour la presse.
D'accord, je confirme parce que je n'en ai pas vu.
Un professionnel de la sécurité s'est anticipé et il est venu avec son parapluie. D'ailleurs, j'ai trouvé très drôle de voir tous ceux qui avaient un parapluie dans leur sac hier soir et ceux qui n'en avaient pas. Et ça montre tout de suite la maturité des gens par rapport à la sécurité.
Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis marié, c'est ma femme qui regardait les météos et qui m'a dit « Ah, il va pleuvoir vendredi, prends un parapluie, sinon tu seras trop con. »
Moi, j'ai non seulement trimballé un parapluie depuis Paris, et puis comme je ne fais pas partie de la presse, j'ai un hôtel sympathique, et donc j'ai aussi un parapluie dans l'hôtel, et du coup j'ai pris le parapluie de l'hôtel parce qu'il était plus grand, je m'en sers de canne pour marcher également. Ce que j'avais pas prévu, c'est que mes chaussures prendraient la flotte, donc le parapluie me sert pas à grand chose. Pour revenir sur les goodies, 30 secondes, j'ai vu un changement par rapport à l'année dernière. L'année dernière, les goodies étaient accessibles facilement. Et je pense que certains ont appris parce que cette année vous pouvez prendre des ballons, des machins, des stylos, goodies habituels. Et en fait, si vous voulez des vrais goodies, ils sont planqués dans le placard ou derrière et vous êtes obligé de discuter avec des personnes sur place. Et ça, je trouve l'adaptation darwinienne absolument excellente de la part des vendeurs. Ça prouve qu'il y a bien un die and retry très présent et qu'ils ont appris de Nicolas Ruff.
Non mais toi Nicolas, quand tu vas récupérer un goodies, tu discutes un petit peu avec les gens quand même. Tu le prends pas sournoisement comme ça en passant.
Non mais moi en fait je distribue des autocollants et des goodies aussi, donc en fait c'est juste un échange de bons procédés. Si tu veux avoir de la verroterie, il faut apporter de la verroterie.
Et alors pour nos auditeurs, moi j'ai une vraie question, puisque c'est la première rencontre du comptoir de la Sécu et de No Limites Sécu. Aujourd'hui avec nous, Justin du comptoir de la Sécu et Joanne de No Limites Sécu. C'est la vraie rencontre, c'est le clash des titans. Comment vivez-vous ça? Est-ce qu'au quotidien, vous avez une confrontation? Est-ce que c'est la même clientèle? J'ai pu entendre dire, pour certains, que c'était les jeunes qui écoutaient le comptoir de la bière. Et puis pour les autres, c'était les vieux qui écoutaient No Limites sur le rhum. Donc comment ça se passe? Est-ce que c'est la première rencontre déjà? Et puis est-ce que vous abordez les sujets de la même manière? Et quel est votre avis sur cette première rencontre? Et est-ce que vous pensez refaire des événements communs?
Il y a énormément de questions dans ta question en fait, il y en a 10 au moins.
Oui, parce que comme ça je suis sûr que vous allez prendre du temps pour répondre et que je n'aurai pas besoin de reprendre l'activité, parce que je comprends bien que là vous êtes un petit peu fatigué, je vois que c'est moi qui fais le deal, donc...
Non, c'est pas la première fois qu'on se voit. En tout cas, on s'était vu au FIC et on avait parlé d'une potentielle coproduction qui a mis du temps, parce que nous on est des glandeurs de jeunes et qu'il faut qu'on mette du temps pour essayer de faire le moindre truc. Et du coup, on a profité des assises pour faire une coprod, tout simplement.
Alors pour ce qui est des autres questions, en fait, je pense qu'on n'est pas concurrents. Je pense qu'on est tout à fait complémentaires avec des approches différentes. Je suis sincèrement convaincu que les gens qui écoutent No Limites Sécu écoutent aussi le comptoir, et inversement. Donc je pense qu'on a tout à gagner à essayer de partager nos communautés, et je pense que c'est sur cet axe-là qu'il faut qu'on travaille. Donc par exemple faire des événements réguliers dans le temps où on va boire une bière tous ensemble. On n'est pas obligé de faire des épisodes ensemble, mais en tout cas faire travailler ensemble pour partager notre communauté, je pense que c'est vers là qu'il faut aller.
Merci Nicolas, un petit mot supplémentaire?
Oh oui, je voulais juste dire que grâce à nous quand même le podcast devient un art majeur, au même titre que la télé, parce que maintenant les podcasteurs invitent des podcasteurs dans leurs émissions. Donc c'est...
Alors tu parles de podcasteurs, je te remercie, c'est une excellente transition. On se croit à RTL ou Europe 1, hein, tu vois, Justin, tu apprécies ma capacité professionnelle à rebondir. Je crois savoir que vous avez pu rencontrer les uns les autres des gens célèbres de la blogosphère, du type Corben ou alors encore Marc Riz. Ça fait quoi de rencontrer des stars de l'internet?
Corben, il est plus grand en vrai.
Ah oui, c'est impressionnant, il est super grand.
Bah, c'est toujours super intéressant qu'il nous parle, par exemple, des problématiques qu'il rencontre, des problématiques de sécurité qu'il peut aborder, puis d'autres problématiques qui sont pas du tout liées à la sécurité, mais qui sont aussi intéressantes. C'est intéressant de discuter avec lui.
Puis au-delà de ça, moi, ça fait près de 10 ans que je lis son blog, que je le suis, mais je l'avais jamais rencontré, jamais vraiment échangé avec lui. Et c'est sympa de rencontrer l'humain, quoi. Tu te rends compte, c'est juste un mec normal, sympa, avec qui tu peux échanger, qui a des problématiques comme tout le monde, et voilà.
Et alors, une question qui peut intéresser les professionnels de la sécurité. Corben peut être vu comme un passionné, comme un amateur de la sécurité, mais il se définit lui-même pas comme un professionnel de la sécurité. Votre appréciation sur le travail qu'il peut faire justement de sensibilisation auprès des internautes, parfois avec des choses toutes simples, hein, comme des commandes sur Linux ou des choses comme ça, c'est un vrai apport pour vous en tant que professionnel de la sécurité, ou alors c'est juste peut-être quelque chose d'un peu léger, du divertissement? Nicolas Ruff.
Non mais pour faire le lien avec les assises, ça n'arrive pas à la cheville de la Hack Academy qui vient d'être lancée aujourd'hui ou hier en grande pompe. Je vous incite à aller voir ces vidéos de sensibilisation. On sent qu'il y a des moyens derrière. C'est vrai que la sensibilisation grand public, c'est difficile, c'est nécessaire, mais c'est aussi très risqué. Parce qu'aujourd'hui, un blogueur qui explique comment aller faire quelque chose d'à moitié, enfin je vais pas dire illégal, mais un peu douteux, ou qui peut mettre quelqu'un en difficulté, une entreprise en difficulté, il y a eu des exemples en France et il y en a ailleurs aussi sur la recherche en sécurité, ça devient de plus en plus compliqué.
C'est pour ça qu'on a arrêté de parler de technique, nous on voulait pas aller en taule. Hein.
Bon, il suffit d'avoir un bon avocat.
Ou de l'argent, ce qu'on n'a pas.
Oui, parce que vous osez pas le dire, mais il y a un appel au don sur votre site pour acheter.
Alors, il y a un appel au don très discret, hein, je tiens à le signaler.
Alors effectivement, je suis très triste parce que je vous avais poussé à faire un Patreon. Je sais pas si vous vous souvenez, les jeunes, pour à chaque nouvel épisode toucher un petit peu de l'argent de la part de vos auditeurs. Et j'ai découvert hier que toute la base de Patreon a leaké. Donc j'étais assez content que vous m'ayez pas écouté parce que sinon vous m'auriez tapé dessus.
Ah ben je ne savais pas. Mais de toute façon le Patreon en fait ça demande trop d'investissement. Faut écrire un truc et c'est trop, beaucoup trop long. Alors que quand tu mets un bouton PayPal c'est vachement mieux.
Alors, pour revenir aux assises de la sécurité, puisque c'est quand même le sujet de notre émission, avec nos invités spéciaux du comptoir de la sécurité et de Nos Limites Sécu, vous allez retourner chacun à la fois dans votre podcast, mais aussi dans votre entreprise.
Il est fort un invité RSSI. Hein. C'est maintenant lui qui nous invite.
C'est ça qui est impressionnant, c'est que la situation s'est retournée. C'est l'invité qui commence à présenter, qui pose les questions.
Et il le fait d'ailleurs
il
très très bien.
Comme chez lui,
hein.
Comme à la maison.
Alors c'est pas sans effet du tout. Au contraire, je pense que ça permet surtout de pouvoir rencontrer les gens. Et donc c'est vraiment très très important de pouvoir discuter avec des gens par mail, par téléphone, mais aussi c'est très très important de pouvoir les rencontrer. Et les assises, c'est vraiment l'opportunité de faire en sorte que tout le monde, tous les acteurs de la sécurité des systèmes d'information puissent se rencontrer.
Je sens qu'Hervé Trépigne, il va pas être d'accord avec ça, mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Johan, c'est que pour les gens un peu moins connus, toi tu connais tout le monde, Hervé, tout le monde te connaît, donc.
Non, voilà, c'est vrai qu'il y a énormément d'opportunités.
Mais pour les gens qui sont moins connus.
Les assises ne sont qu'une parmi d'autres. Et donc, les gens, on les voit souvent.
Les assises, tout comme d'autres événements, en fait, c'est avant tout une occasion, de networking, c'est ça?
Non, il y a une vraie différence entre les assises et d'autres événements. Attention, les assises, c'est riche, les assises, il y a des soirées, il y a des trucs à manger, parfois qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, alors, évidemment, les burgers, ça, on n'a pas besoin de venir aux assises pour en avoir, mais il y a, les assises, c'est quand même dans un cadre qui est beaucoup plus exceptionnel que tous les autres événements en sécurité. Quand on va, je sais pas, moi, à Hacking Paris, à Quito Ergosum, etc., c'est quand même très différent. Donc, les assises ont quand même cette particularité.
C'est pas le même public aussi.
Oui, c'est pas le même public. Et donc, il faut aller partout pour voir l'ensemble du public. Ici, il y a certains publics, RSSI, infrastructure classique, qui achètent des produits en sécurité. C'est très intéressant.
Justement, sur les fameuses soirées, comme tu en parles, il y a des événements sécurité divers en France et des événements beaucoup plus techniques où là, effectivement, souvent, il y a des soirées avec des challenges, par exemple, où c'est l'occasion, hors des conférences, de prendre le temps de discuter et de boire une bière. Il y a des salons qui sont un peu moins techniques également, qui ressemblent plus aux assises, mais pour le coup, qui n'ont pas forcément cette notion de soirée systématique et qui, surtout, invite tout le monde et non pas seulement une partie VIP, mais bien tous les exposants et tous les invités. Et là, ça force du coup les gens à se parler. Moi, je sais que le plus de rencontres que j'ai fait l'année dernière aux Assises, c'était justement pendant les deux soirées. Mmh. C'était grâce à des gens comme vous, justement, qui nous ont fait pris par le col et dit viens parler à.
Ça me rappelle quelque chose.
Voilà,
hein.
Viens parler à X ou Y, tu verras, il est sympa. Et finalement, moi, c'est ma source principale de.
Effectivement, l'année dernière, je les ai pas lâchés pendant la première soirée. Je leur ai fait rencontrer une vingtaine de personnes.
Et alors, moi, j'ai un truc. Il y a vraiment un avant et un après Assises. C'est qu'avant, je pense qu'on nous aimait bien parce qu'on était jeunes, on était cool. Après cette émission, je pense qu'on va moins nous aimer. Bizarrement, je sais pas. Je pense.
De toute façon, les jeunes, fallait pas inviter des vieux dans votre émission. Hein, ça, c'est.
Alors, qui dit les Assises de la sécurité dit Gérard Rio, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, je tiens à le remercier pour ne serait-ce que nous permettre de nous réunir. Et si vous aviez un message à lui adresser, ça serait quoi pour vous les Assises parfaites de la sécurité à Monaco ?
Du soleil.
Peut-être un peu plus long, 4 ou 5 jours.
Non, mais on va mourir. Déjà 3 jours, c'est difficile de tenir. 4 jours, c'est impossible.
On est au bord de la fatigue, là, donc je pense qu'un jour de plus.
Pas de keynote à 9h du matin.
Mais il n'y a pas un sujet, il n'y a pas des idées qui vous viendraient et vous diriez mais ce qui manque aux assises, c'est absolument ça pour que ce soit parfait.
On peut faire des assises en deux fois pour que ce soit un peu plus cosy, que les gens se rencontrent plus. Donc deux événements dans l'année avec deux fois moins de monde. On peut aussi faire des assises à un endroit où on n'est pas obligé de prendre l'avion. On n'est pas obligé de prendre le car. Il y a plein d'idées pour changer les assises. Mais les assises ne seraient plus les assises si elles changent.
Si,
donc les assises ne doivent pas changer.
J'ai un point d'amélioration. Alors je suis myope, je porte des lunettes. Peut-être. C'est concernant les badges. C'est juste d'avoir une police de caractère un petit peu plus grosse. Parce que je suis pas très vieux, mais quand même de loin, j'ai du mal à lire les noms.
éviter d'avoir des badges plus de, enfin plus avoir des, du coup des badges qui pendent au niveau de le du ventre, mais plus au niveau du la poitrine, pour
côté
éviter
cœur.
De
côté cœur, côté cœur,
pour éviter d'avoir baissé les yeux à chaque fois qu'on voit quelqu'un.
Tu veux pas un sticker sur le front aussi pour pas
avoir. J'aimerais bien.
Merci pour cet enchaînement, Nicolas Ruff. Je pense que tu as
que des remarques sur les badges.
Nicolas Ruff, je pense que tu as un retour à faire, puisque avec, je pense, Vladimir Kola, tous les deux, vous avez fait une expérience dès le premier jour sur non pas les badges, mais les bracelets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Ah oui, voilà, sûr. Donc avec Nicolas, on s'est amusé à regarder ce qu'il y avait dans les puces RFID de nos bracelets. Et au lieu d'avoir un ID normal, moi j'avais juste la chaîne OK. Donc on s'est posé la question de savoir comment est-ce que c'était possible, et on s'est rendu compte que la zone qui contenait l'information était réinscriptible. Donc on s'est amusé à écrire une injection SQL pour voir ce que ça donnait. Bon, voilà, on s'est amusé.
Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même la nouveauté cette année, les badges RFID, enfin NFC.
Oui, oui, c'est la vraie nouveauté de l'année.
Et bon, je sais pas, ça a fait gagner quelque chose au niveau des queues.
Au niveau du temps, j'ai l'impression que t'as pas besoin de te stabiliser pour prendre le QR code, et que donc ça va quand même vachement plus vite juste la lecture.
Oui, mais alors en fait, sur tous les stands exposants, tu es scanné avec un iPad qui n'est pas NFC, et donc de toute façon ils prennent le QR code.
Oui,
donc,
mais tu fais pas la queue soit au resto pour la soirée, soit à l'entrée du salon. Donc je pense que ne serait-ce qu'un test, ça fait quand même gagner du temps pour les exposants et pour les invités.
Juste pour clarifier rapidement, pour ceux qui ne sont pas venus encore aux assises,
pour ceux qui ne comprennent pas,
on a tous un joli petit collier autour du cou avec notre nom, d'où on vient, et un QR code qui permet de nous authentifier, nous identifier plutôt un peu partout. Donc aussi bien aux entrées pour pouvoir rentrer dans le salon, pour pouvoir rentrer dans les différentes salle de conférence, et aussi pour les différents exposants, pour qu'ils puissent du coup garder un listing des gens qui sont venus leur parler et pour pouvoir recontacter par la suite.
Oui, mais enfin le QR code, il t'identifie pas, puisque tu peux te prêter ton badge à quelqu'un d'autre. L'avantage de la puce RFID, c'est que ils te l'ont donné après avoir vérifié ton identité quand tu as présenté tes papiers d'identité. Donc comme ça, comme c'est accroché, tu peux pas l'enlever. Là, ils sont sûrs que quelqu'un va pas rentrer avec la puce RFID d'un autre. À moins qu'on soit capable de réécrire la puce RFID.
Alors, en l'occurrence, le code à 5 chiffres correspond à celui du QR code, mais en fait, il ne sert à rien. C'est l'UID, enfin le secteur 0 du MIFER qui est utilisé pour t'identifier. Donc, en théorie, tu ne peux pas le dupliquer. En pratique, il y a quelques fabricants sur ebay.cn qui te vendent des MIFAR parfaitement réinscriptibles, mais pour cette année, je crois que personne n'a eu la présence d'esprit de prendre un Proxmark et des
RFID chinois. On ne savait pas à l'avance, donc on saura pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on pourra avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités supplémentaires inattendus.
Et pour tous nos amis du comptoir de la sécurité qui n'ont pas forcément toute cette appétence technique, est-ce qu'on peut avoir une traduction, s'il vous plaît? Le MIFAR qui vient interférer sur le bit 0, ça veut dire quoi tout ça en clair?
C'est le numéro de série de la carte de la puce RFID, tout simplement, qui est inscrite quand elle est créée, et elle est censée être unique. MIFAR est censé assurer l'unicité des numéros de série.
Il faut savoir que ces technologies-là, à la base, c'était pas utilisé pour l'authentification, ça a été reconverti par la sécurité par la suite. C'était notamment utilisé pour identifier le bétail. Donc il y avait. Mais non, mais faut.
Oui, c'est vrai, nous sommes identifiés comme du bétail.
C'était l'origine, donc le numéro de série servait du coup de facto en identification. Il y a des technologies un peu plus sécurisées en NFC qui permettent de faire des échanges et donc de ne pas pouvoir modifier ce que l'on souhaite sur la carte, c'est pas le cas ici. Mais potentiellement, avec une technologie comme du Deathfire ou autre, on aurait pu avoir quelque chose de plus robuste. En même temps, est-ce que c'est l'intérêt pour un entrer dans un salon?
Après, pour un salon de sécurité.
Simplement rajouter un feedback. J'ai vu quand ils badgeaient sur leur iPad, ils ont juste un message qui dit OK de mémoire, ou le nom de la personne.
Il y a le nom de la personne et un OK.
Mais j'ai pas vu de photo, par exemple. Alors que simplement, un simple feedback sur la photo, on peut très bien voir si la personne ne porte pas le bon badge.
Mais ça t'oblige à donner ta photo et tout le monde ne le peut pas.
En fait, sur ton profil, lorsque tu t'enregistres, en tout cas en tant qu'invité, je sais pas pour les partenaires, mais en tant qu'invité, pour que ton profil soit complet, il faut donner ta photo.
Mais je crois que la seule solution vraiment efficace, ce serait en fait de mettre un collier avec un GPS, et comme ça, tu pourrais tracer efficacement pendant 3 jours. Non, c'est ce qu'on fait sur le bétail, il me semble. Il y a des vaches qui sont déjà géolocalisées.
Alors, pour revenir sur des points un petit peu plus positifs, est-ce que vous assistez au gala ce soir?
En tant que journaliste, non, nous ne sommes pas invités au gala.
En tant que partenaire qui a payé le prix, nous avons la possibilité d'avoir une ou deux personnes au gala.
Et alors Hervé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est le gala, toi qui as assisté à beaucoup de galas ici, puisque tout le monde n'y assiste pas, beaucoup d'invités repartent parce que ils veulent retourner dans leur famille ou dans leur patrie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ce gala et démystifier pour tous les gens qui ne connaissent pas les Assises, ce qui s'y passe, ce qu'on y fait, ce qu'on y boit, ce qu'on y mange, ce qu'on rencontre?
Le gala, c'est juste un dîner avec un spectacle, tout simplement, comme vous pouvez en avoir partout, à Paris et ailleurs. Et surtout, quand vous restez au dîner de gala, ça veut dire que vous êtes là le samedi. Et le samedi, il y a un brunch qui permet, dans une ambiance beaucoup plus détendue que le reste de la semaine, et même plus que dans les soirées, de pouvoir retrouver tous ceux qui profitent du temps et du bord de la Méditerranée le samedi.
Est-ce l'occasion de voir Hervé Schauer en caleçon avec sa bouée canard ?
Non, pour ça, t'as nos limites sécu, mais...
Mais parce que, ce qu'on n'a pas dit quand même pour les gens qui sont pas là, c'est qu'il y a énormément de costumes cravates aux Assises, contrairement à d'autres conférences. Et le samedi, effectivement, on peut voir les gens dans une tenue plus décontractée.
Alors, moi j'ai assisté au gala l'année dernière, c'était mon premier gala puisque c'était mes premières Assises, et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et donc on est invité en tant qu'invité normalement par un partenaire, et ce partenaire vous invite à sa table, et il y a beaucoup de monde, la salle est grande mais il y a beaucoup de monde, et donc on peut pas forcément circuler comme vous le feriez au social event à Stick. Par exemple, pour ceux qui vont à Rennes, ou à la JSSI de Lossir, pour ceux qui participent à Paris.
C'est le cas chaque année, mais n'oublie pas que tu as deux soirées qui précèdent le dîner de gala. Ces deux soirées sont des dîners debout, où tu peux bouger et rencontrer tout le monde. Donc c'est normal que le dîner de gala avec un spectacle soit assis à table.
Alors, je suis d'accord avec toi, c'est normal. Par contre, il vaut mieux être bien accompagné dès le départ, parce que sinon, tu passes ta soirée le nez dans ton assiette.
En même temps, le spectacle est assez intéressant. Moi, j'en avais assisté à un ou deux, je m'étais pas ennuyé, et ça va tellement fort que tu discutes pas avec tes voisins. Donc,
on perd du coup un peu l'intérêt du côté social. Mais
Je crois que le dîner de gala, c'est pas une histoire de social, c'est plus une marque. C'est un peu comme la taille de ta chambre, c'est une échelle de prestige ou la distance de ton hôtel, c'est une échelle de prestige dans l'organisation. C'est le social, il se fait effectivement le lendemain matin au brunch.
Tout d'un coup, là, tu viens de me faire remonter dans une échelle que je ne savais même pas atteindre.
Bon, est-ce que ta baignoire est en marbre ?
Non, par contre, j'ai une suite qui regroupe à peu près tous vos appartements, là, donc. Alors, on va inaugurer une nouvelle rubrique dans le comptoir Sécu et nos limites. C'est le fail, hein, le fail de la semaine, le fail du mois, le fail exceptionnel, qui sera d'habitude alimenté par notre animateur préféré, Vladimir Kola. Et ce soir, chers auditeurs, c'est moi, Jean-Philippe Gaulier, qui vous partage un fail. J'ai pu recevoir un prestataire, et donc on parlait de choses et d'autres, et ce prestataire vient m'expliquer son calendrier des sauvegardes et comment il gère les sauvegardes. Et je m'intéressais à la chose et je lui demande à un moment comment... quels algorithmes sont utilisés pour effectuer les sauvegardes. Alors, je m'attendais à un Cremental, full, machin, avec somme de contrôle, etc. Et ce prestataire me dit, eh bien, nos sauvegardes sont effectuées en MD5. Alors, j'ai eu un temps d'arrêt. J'ai fait répéter pour être sûr d'avoir bien compris. Et je me suis dit que c'était la première fois que j'encontrais quelqu'un qui n'aurait jamais de problème de place sur ses sauvegardes.
Fail.
Ce que tu comprends pas, c'est que sa sauvegarde, elle est sur Internet, et il a juste à taper le MD5 de ses fichiers dans BitTorrent, et il retrouve tout. C'était ça qu'il voulait dire. Effectivement, on n'a pas parlé quand même de la keynote principale et attendue, celle de l'ANSSI, qui a délivré énormément de messages.
Excellent message.
Est-ce que tu veux en dire un mot?
La formation. Il a insisté sur la formation, et je pense qu'il a entièrement raison.
Il a aussi parlé de nos partenaires étrangers, mais néanmoins européens. Et il a aussi, il me semble, souligné le fait que Malgré quelques coups peut-être un petit peu vacheurs que des amis outre-Atlantique ont fait, ça n'en restait néanmoins pas des ennemis, mais bien des amis avec qui on voulait travailler, coopérer. Et comme cet acteur-là, pour ne pas le citer, les USA, sont quand même l'acteur majoritaire à fournir des services, hein, on va dire peut-être 95% des services qu'on peut trouver entre autres dans le cloud, je pense qu'il a plus que raison en disant qu'on ne peut pas se fâcher avec des gens comme ça. N'est-ce pas, Nicolas?
Moi, j'ai pas compris la même chose que toi. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur les labels, justement des labels de cloud français, cyber souverain, etc.
Pris, Passy, pour les citer,
etc. Non, mais il a vraiment parlé de label cloud en insistant sur la souveraineté des données. Donc, j'ai plutôt l'impression que il a dit que les industriels français devaient s'enrichir en faisant des offres commercialement efficaces. Bon, en fait, il y a énormément de messages qui sont passés à cette keynote, donc je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être lu, d'être posé une fois que la transcription sera publiée sur le site de l'ANSI.
Pour appuyer sur le côté justement souverain, pour avoir cité une conférence par la suite avec l'ANSI qui parlait de leur nouvelle qualification Secure Cloud Plus, les quelques critères fondamentaux, c'est justement d'avoir le cloud sur le territoire français avec le support en France. Donc c'est vrai que pour le coup, le côté ouverture, on le voit pas non plus dans les labels sécurité, enfin les plus hauts en tout cas.
Et c'est ouvert sur Internet, non? C'est bon.
Bah, de toute façon, je pense que là, on a fait un petit peu le tour de cette nouvelle émission présidée par Jean-Philippe Gaulli.
Notre invité. Invité et animateur.
Il a réalisé une élévation de privilèges.
Eh bien, Johan, merci pour cette nouvelle instance, nouvelle occurrence de No Limites Sécu. Un petit mot pour finir?
Eh bien, je voudrais inciter nos auditeurs, s'ils ont l'opportunité de venir aux Assises, de venir parce que c'est un événement exceptionnel et qu'il ne faut pas le rater si on en a la possibilité.
Morgane, peut-être pour le comptoir? Un petit mot pour finir?
Oula, pris à défaut. En tout cas, je le pense, niveau volume, c'est celle qui brasse le plus de monde en France, dans le domaine en tout cas, on va dire des décideurs, pas forcément au niveau technique, mais au niveau management, pour la partie SSI. Non, et surtout un merci à No Limites Sécu pour nous avoir accompagnés sur cet épisode. C'est le premier, mais j'espère pas le dernier.
Merci à vous.
Eh ben, chers auditeurs, chères auditrices.
Et merci à Jean-Philippe Gaulier pour son élévation de privilèges.
Ah, c'est vrai qu'il nous a fait une animation extraordinaire. Merci Jean-Philippe.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir.
Non, c'est bonjour, ils écoutent le matin.
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut.
Au revoir.
Au revoir.